Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici avec les nouvelles du ciel et on va parler que du ciel. Bonjour Denis.
Bonjour Gisèle, bonjour à toutes et à tous. Mes meilleurs voeux également à tous nos auditeurs.
Pour ce mois de janvier, on va parler d'une étoile, mais d'une étoile que l'on voit à l'œil nu. C'est Vénus.
Et oui, alors pour être un peu plus précis, c'est une planète qui a l'apparence d'une étoile.
Ah, voilà. Alors expliquez-nous ça, parce que entre planète, étoile, vivante, morte, je ne m'y retrouve plus.
Alors ça nécessite un petit peu d'explication en effet. Oui. Quelle est la différence entre une planète et une étoile? Eh bien, une étoile, c'est un corps qui vit par sa propre lumière, hein. C'est une boule de gaz, hein. Qui émet des rayonnements dans toutes les directions de l'espace, contrairement à une planète qui est un astre qui est mort, en fait, et qui ne fait que réfléchir, en fait, la lumière d'une étoile située dans son environnement. Mmh. Et dans le cadre de Vénus, comme l'ensemble des corps du système solaire, hein, eh bien, c'est le Soleil, notre étoile, qui nous permet justement de pouvoir voir ces objets, ces fameuses planètes, hein, entre autres, dans le système solaire, et donc Vénus.
Voilà. Donc Vénus est proche du Soleil plus que la Terre, c'est ça?
Voilà, tout à fait. Déjà, Vénus, on l'appelle l'étoile du berger.
Hein, et oui.
Pourquoi on parle de Vénus aujourd'hui? C'est parce qu'elle est visible, hein, visible en direction du sud-ouest, hein, le soir, entre 18h et 20h. Hein, vous verrez une étoile très très brillante, hein, juste après le coucher du soleil.
C'est la toute première, en fait.
C'est pas systématiquement la toute première, hein. Ça dépend, en fait.
Oui, mais qui brille énormément.
Oui, en ce moment, hein.
Ah oui.
En ce moment.
Oui.
En fonction de la position des planètes dans le système solaire.
Oui.
Eh bien, vous aurez des éphémérides totalement différentes. Hein. Mm-hmm. L'étoile du berger n'est pas toujours la première étoile, en fait, qui apparaît juste après le soleil, hein.
D'accord.
En ce moment, c'est Vénus, hein, l'étoile du berger. Hein, donc, il s'agit bien d'une planète, hein, et non d'une étoile. Hein. Pourquoi on l'appelle l'étoile du berger? Parce qu'à une certaine époque, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui, eh bien, elle guidait justement les bergers pour entrer ou pour sortir les troupeaux de moutons, mm-hmm. entre autres. Vénus, c'est la deuxième planète du système solaire. Hein. La première, c'est Mercure. On avait déjà traité Mercure dans une émission précédente. Et ensuite vient Vénus. Vénus, qui est une planète située à une distance moyenne de 108 millions de kilomètres du Soleil. Hein. Je rappelle que la distance de la Terre au Soleil, hein, histoire de comparer, est située à 150 millions de kilomètres. Hein. Vénus est située entre Mercure et puis l'orbite de la Terre.
Oui. Est-ce que la vie serait possible sur Vénus?
Oh, c'est extrêmement compliqué de pouvoir vivre sur Vénus. Hein. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une planète qui est beaucoup plus proche du Soleil que de la Terre, qui va recevoir beaucoup plus d'énergie. Mais c'est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que Vénus possède une atmosphère qui est particulièrement très dense en gaz carbonique.
Oui.
Hein. Et puis, on y trouve d'autres types de molécules comme de l'acide sulfurique dans l'atmosphère. Donc, c'est une atmosphère qui n'est pas très accueillante.
Tout à fait, hein, je comprends.
Notamment pour les premières sondes spatiales qui se sont posées et qui ont dû traverser ces couches atmosphériques particulièrement denses et puis
acides.
Hein. Oui. Et de ce fait, on a un effet de serre sur Vénus qui est extrêmement important, à un point où on arrive à des températures moyennes qui tournent autour des 470 degrés.
Je sais pas. Ah oui, alors en effet, on peut pas vivre.
Si vous imaginez.
On serait vite brûlés.
Vivre dans ce type d'atmosphère.
Pour sensibles, s'abstenir.
C'est une atmosphère qui est particulièrement dense, très chargée en CO2, en gaz carbonique. Et on a des températures telles que la vie, à l'état, je dirais, d'être humain, est particulièrement compromise. Hein. Mm-hmm. Ensuite, bon, on va trouver des reliefs avec des montagnes, des volcans. Vous avez certains monts aussi, enfin le plus haut, qui est le mont Skadia, qui atteint presque 11 km d'altitude, hein,
oui.
10,7 km exactement,
ah oui. Hein,
c'est le plus haut sommet, qui est situé sur un mont qu'on appelle le mont Maxwell. C'est pas un paysage, je dirais, très accueillant. Hein.
D'accord.
On pourrait faire référence peut-être à l'enfer, hein, plus
ah
exactement.
Oui. C'est vrai.
C'est loin d'être un coin paradisiaque.
Est-ce que, par exemple, Vénus pourrait s'éloigner du Soleil et peut-être rendre la vie plus possible ? Est-ce que c'est possible qu'une planète s'éloigne de sa planète mère, le Soleil.
Il faudrait qu'il y ait, je dirais, un bouleversement, je dirais, gravitationnel,
oui.
Que Vénus rentre en collision avec notre corps pour que Vénus puisse quitter son orbite. Hein, hein.
Mm-hmm.
Il faudrait réellement des éléments extérieurs pour éloigner justement Vénus de son orbite. À ce propos-là, Vénus a une période de rotation, en fait, plus longue que sa période de révolution autour du Soleil.
Ah oui ?
Tout à fait.
Et comment ça se fait ?
Alors, ça s'explique par tout un mécanisme extrêmement complexe dans le cadre de la formation du système solaire, hein, où, bon, à l'heure actuelle, on n'explique pas tout. Hein,
oui.
Ce sont des hypothèses qui sont émises. Et la rotation de Vénus sur elle-même correspond à 240 jours, hein, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui est extrêmement lent,
hein,
un mouvement de rotation, alors que pour la Terre, c'est 24 heures.
Et oui.
Hein. Et puis, la durée de révolution autour du Soleil, c'est 20 jours de moins, grosso modo. Voilà, 20 jours de moins. Et c'est un mouvement qui est rétrograde. C'est-à-dire que la plupart des planètes dans le système solaire, en dehors de Vénus et d'Uranus, ont des mouvements qui sont directs. C'est-à-dire que la Terre tourne dans les sens inverse des aiguilles d'une montre. Or, pour Vénus et Uranus, hein, ces deux planètes-là, elles ont des mouvements rétrogrades, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Pourquoi ? Parce que leur axe de rotation, en fait, il est complètement renversé.
Hein. Ah oui.
Voilà, c'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre par rapport à un plan qu'on appelle le plan de l'écliptique est de 23 degrés. Hein. Pour Vénus, eh bien, c'est de l'ordre, ça tourne autour des 170 degrés d'inclinaison.
Oui.
Voilà. Donc, de ce fait, sa rotation, en fait, elle est inversée.
D'accord.
Voilà. Et c'est la même chose pour Uranus. Hein. Uranus qui a un axe orbital qui est incliné de l'ordre des 97 degrés. Sur son orbite. Donc là aussi, on a non pas un mouvement direct, c'est-à-dire dans les sens inverses des aiguilles de montre, mais un mouvement rétrograde, hein, c'est-à-dire que Vénus et Uranus tournent dans le même sens des aiguilles d'une montre.
Okay.
Voilà. Et ceci, bon, il y a beaucoup de théories qui essaient d'expliquer ça. D'une part, ça aurait pu être, dans le cadre de la formation du système solaire, une collision avec un autre corps qui aurait modifié l'axe de rotation de Vénus. Ou ça serait lié à l'atmosphère même de Vénus qui impacterait justement sa rotation.
Oui,
voilà.
Oui. Est-ce qu'il y a, à proximité de Vénus, est-ce qu'il y a des astres ? Est-ce qu'elle a des étoiles ? Est-ce qu'elle a une lune ?
Vénus est une planète qui est dépourvue de satellites, hein, comme Mercure. Alors pourquoi on ne trouve pas de satellites, hein, l'hypothèse la plus plausible est qu'à cause de l'effet gravitationnel important du Soleil, eh bien, les satellites ne peuvent pas être dans un état d'équilibre autour de la planète. Donc, de ce fait, à cause du Soleil, eh bien, ces fameux satellites seraient en quelque sorte arrachés. C'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, anormal. hein, de pas trouver de satellites ni d'anneaux oui. autour de ces planètes-là.
Oui. Est-ce qu'il y a une certaine forme de vie sur Vénus ?
À l'heure actuelle, non, on serait oui. bien content d'en trouver. Oui. Mais comme je l'expliquais,
oui. Donc
vu la forte chaleur qui y règne, c'est pas évident de trouver des acides aminés. Mm-hmm. qui est en fait la base en fait de la vie, hein,
oui.
que ça soit sur Terre ou ailleurs dans l'univers. Donc oui. il faut des conditions biochimiques, il faut oui. des conditions thermiques également pour que la vie justement puisse se développer.
Oui.
Vénus n'est pas située dans une zone dite habitable. Hein. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que il y a des conditions bien particulières de distance, hein, par rapport à l'étoile, et ça en fonction aussi de la nature de l'étoile, hein, parce que toutes les étoiles n'ont pas du tout les mêmes propriétés. Vous avez des étoiles qui émettent beaucoup plus de rayonnement, beaucoup plus d'énergie, et d'autres moins. Hein. Nous, par rapport à la Terre, eh bien, on est privilégié, hein, parce qu'on est situé à une très très bonne distance du Soleil, parce qu'on peut recevoir suffisamment d'énergie pour que la vie puisse se développer. Et on sait très bien qu'en été, par exemple, bon, il faut quand même faire preuve de prudence et se protéger aussi des rayonnements qui nous proviennent du Soleil. Donc on arrive quand même à trouver le juste milieu. Quoi.
Oui.
Et pour les molécules, évidemment, toutes les conditions ont été réunies pour justement fabriquer, synthétiser en fait ces premières molécules organiques, hein, ces mm-hmm. fameux acides aminés pour donner naissance à la vie terrestre.
Le fait qu'il n'y ait pas d'étoiles à proximité de Vénus, est-ce que, vous l'avez dit, c'est quand même dû aussi à sa rotation qui est rapide
oui.
et qui est à la fois lente.
Oui.
Est-ce qu'il y a des vents, est-ce qu'il y a des marées sur... Non, il n'y a pas de marées puisqu'il fait trop chaud, ça s'évapore à mesure.
Il n'y a pas de marée. En fait, bon, il y a toujours des effets gravitationnels
oui.
Liés à la proximité donc du Soleil. Hein, hein. Mais bon, on est quand même situé à une distance de 108 millions de kilomètres, et il y a toujours donc des forces d'attraction qui impactent justement toute le déplacement également des nuages sur Vénus.
Oui.
Alors c'est une planète qui a un diamètre légèrement inférieur à celui de la Terre, hein,
mm-hmm.
et on l'appelle la cousine, la jumelle de la Terre, parce que quand on l'observe au télescope, il y a des nuages blancs qui contiennent des cristaux, hein. Et puis on a du bleu qui apparaît. On pourrait penser qu'on a affaire à la Terre.
Oui, il y a de la roche, il y a aussi
voilà.
de la Terre, on pourrait
voilà.
appeler.
Voilà, il y a une activité volcanique, hein,
oui.
De la roche, bien sûr. Hein, c'est une planète tellurique. Hein,
d'accord.
Hein, comme Mercure, comme la Terre et Mars, hein, ce sont des corps qui sont solides. Mais la particularité de Vénus, c'est de posséder une atmosphère très dense, hein, et non ténue, hein, comme
oui.
Mercure. Et grâce à cette atmosphère ténue, très dense, eh bien, on a ce qu'on appelle un albédo, qui est important. Alors, un albédo, c'est le rapport entre la quantité de lumière qui est reçue sur la surface de Vénus et qui est renvoyée, en fait. Hein. Hein, c'est-à-dire que vous avez 75% en fait du rayonnement solaire qui est renvoyé dans notre direction. Et ce qui explique que c'est une étoile, si j'ose dire,
oui.
particulièrement brillante dans le ciel, contrairement à des planètes comme par exemple Mars, où il y a une atmosphère qui est beaucoup moins dense, et qui renvoie moins bien le rayonnement du Soleil. Donc c'est grâce à l'atmosphère de Vénus, hein, et au Soleil, hein, que nous pouvons voir cette planète particulièrement brillante dans le ciel.
D'accord, d'accord, je comprends bien. Entre Vénus et le Soleil, il peut y avoir rapprochement ? Est-ce que Vénus va...
Les planètes, quand elles gravitent, hein, comme les satellites artificiels, quand ils gravitent autour de la Terre, ils perdent de l'énergie. Mais bon, ça se fait de manière progressive. Après, dans 4,5 milliards d'années, grosso modo, la gravitation planétaire, en fait, sera bouleversée. Pourquoi ? Parce que le Soleil, il arrivera en fin de vie, donc ça va, le Soleil gonflera, et absorbera les premières planètes du système solaire, c'est-à-dire les planètes telluriques.
Oui.
C'est-à-dire que Mercure, Vénus, la Terre et Mars se feront absorber de par cette enveloppe gazeuse solaire.
Vous dites que ça va être absorbé, que ce sont des planètes gazeuses. Est-ce que ça pourra amener une révolution dans le système solaire? Est-ce que ça va exploser?
Ah, mais le système solaire, je veux dire, sera complètement bouleversé. Même la galaxie elle-même sera complètement bouleversée.
Notre galaxie.
Oui, notre galaxie, la Voie lactée, parce que on se rapproche de plus en plus, je dirais vite, d'une grande galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède M31. Dans 4 milliards d'années, il y aura une interaction beaucoup plus forte entre la galaxie d'Andromède, qu'on appelle M31, et puis la Voie lactée. C'est-à-dire que ces deux galaxies rentreront en interaction. Il y aura une réorganisation, en fait, des structures galactiques. Et ça donnera naissance à un nouveau type de galaxie qu'on appelle elliptique.
Donc peut-être quelques planètes viables comme la Terre.
Peut-être on aura l'occasion de trouver d'autres planètes avec de la vie. Pourquoi pas
bon, on en là, reparlera dans 4 millions d'années.
4 millions d'années, je ne sais pas, et à 4 milliards d'années, encore moins ça.
C'est bien aussi de se projeter et de pouvoir imaginer des scénarios possibles. Mais je suppose que ça sera une grande, grande révolution. Mais le Soleil existera toujours ou il finira vraiment par s'éteindre?
Le Soleil finira par devenir une étoile morte, Voilà,
d'accord.
Il finira par s'éteindre.
Et donc, il y aura un nouveau soleil qui va se faire, peut-être à la jonction des deux...
Ah, peut-être, là, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. On ne sait pas trop quel sera le scénario. Parce que, vous savez, il n'y a rien de statique dans l'univers, dans notre galaxie. Tout comme on peut avoir un gros astéroïde qui peut très bien bombarder la Terre. Ça, ce n'est pas impossible. Bon, mais avec de faibles taux de probabilité. Mais il y a des événements extérieurs qu'on ne peut pas prévoir et qui peuvent bouleverser toute la mécanique céleste. Tout à fait.
Allez, on va parler un peu de l'éphéméride de ce mois de janvier, avec ce ciel d'hiver qui, quand il fait beau, il est vraiment magnifique.
Oui, tout à fait. Et surtout qu'on a des étoiles qui sont particulièrement brillantes dans le ciel d'hiver. Alors, je vous parle, par exemple, de la constellation d'Orion.
Oui,
la constellation d'Orion qui est d'une beauté. Alors on la reconnaît facilement grâce à ces trois étoiles qui sont équidistantes. Il s'agit d'Alnitak, Alnilam et Mintanka. Ces trois étoiles donc qui sont éloignées, bien brillantes. Et dans cette constellation, on peut voir énormément de choses. À côté de Alnitak, par exemple, on a une nébuleuse obscure qu'on appelle Barnard 33, qui est la fameuse tête de cheval dans Orion. Sinon, on peut voir une nébuleuse qui est très connue, qui est la nébuleuse d'Orion, qui est M42, qu'on peut voir assez facilement à l'aide d'un petit télescope. Donc, on voit une poche de gaz et au milieu, on voit des étoiles particulièrement brillantes, parce que ce sont justement des jeunes étoiles qui excitent en fait les poches de gaz autour. Et c'est pour ça qu'on arrive justement à voir ces fameuses nébuleuses au télescope. Alors évidemment, si on utilise des moyens photographiques, eh bien là, ça permettra de pouvoir mieux mettre en évidence la structure même de cette nébuleuse. Voilà.
Oui.
Et dans la constellation d'Orion, vous avez une étoile géante rouge qui s'appelle Bételgeuse et qu'on surveille de près.
Ah, pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est une étoile qui est à deux pas d'exploser. et de se transformer en supernova, qu'on appelle ça.
Oui.
On surveille ça de près, bien entendu, hein, parce que les rayonnements émis par une supernova sont tels que ça pourrait même briller en pleine journée.
Oui. Hein.
C'est des phénomènes quand même qui sont, par rapport à nous, qui sont, on va dire, rares, mais ça vaut le coup réellement de pouvoir les observer, les analyser, et ça nous permet de mieux comprendre, améliorer aussi les modèles, hein, qui permettent d'expliquer eh bien, l'évolution justement des étoiles dans notre galaxie.
D'accord.
Voilà. Ensuite, dans le ciel d'hiver, bon, vous avez d'autres constellations qui sont remarquables. Hein. Vous avez la constellation du Taureau, par exemple,
oui.
Avec Aldébaran, hein, l'étoile la plus brillante. Et à côté, vous avez un amas d'étoiles qu'on appelle les Pléiades, ou les Sept Sœurs, ou M45, hein, le 45e objet qui a été classé par Charles Messier, hein, en 1744. Et un objet qui est facilement observable avec simplement une paire de jumelles. Qu'il n'y a pas besoin de s'acheter un gros télescope. Hein. Mm-hmm. On voit énormément de choses avec une simple paire de jumelles. Et c'est réellement de toute beauté. Ça, c'est dans le prolongement en fait, de ces fameuses trois étoiles hein, du Baudrier d'Orion. Hein. Si vous allez vers le haut, ben, vous tombez sur cet amas d'étoiles, hein, 45. Et si vous prolongez vers le bas, ben, vous tomberez sur l'étoile la plus brillante du ciel. Alors, il ne s'agit pas d'une planète, là.
Oui.
Hein, il
ne
s'agit pas de l'étoile du berger, mais il s'agit de l'étoile Sirius. Sirius, qui est l'étoile la plus brillante de la constellation du Grand Chien.
Très bien.
Ensuite, intéressant à voir le 23 janvier, en plus de ces fameuses constellations dont
oui.
je viens de citer. Le 23 janvier, par exemple, à l'aube, hein, juste avant le lever du soleil,
oui.
eh bien, vous aurez peut-être la chance, bon, si bien sûr le ciel est dégagé, de voir un rapprochement entre un croissant de lune et la planète Mars, juste avant le lever du soleil.
Oui.
Bon, Mars n'a pas un éclat équivalent à celui de Vénus, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Hein, mais c'est une étoile qui a tendance à être rougeâtre. En fait, c'est une planète.
Oui, hein, une planète, oui, en effet.
Hein, qui a l'apparence d'étoile. Hein.
Oui.
Alors, pourquoi ça a l'apparence d'une étoile? C'est bien sûr à cause du diamètre apparent et de la distance qui nous sépare.
Oui.
Donc, c'est un point dans le ciel qui est éclairé par le soleil. Et puis le 27 janvier, eh bien là, on aura un rapprochement entre l'étoile du berger, c'est-à-dire la planète Vénus,
oui.
et puis Neptune. Neptune, qui est une planète qui nécessite quand même du gros matériel hein, pour
oui.
pouvoir la voir correctement. Mais sinon, avec une très très bonne paire de jumelles, vous pourrez voir ce rapprochement. Sachant que Neptune et Vénus seront à moins d'un demi degré d'écart angulaire, hein, voilà, mm-hmm. de distance angulaire.
Quand vous dites rapprochement, je suppose que c'est parce que nous on le voit avec effet d'optique.
Oui, c'est
elles
un effet de perspective,
pas...
tout à
voilà,
fait.
Voilà, d'accord.
Ça veut dire que Vénus et Neptune ne rentreront pas en collision. C'est pour vous rassurer,
oui. Quelles activités au balcon des étoiles ce mois de janvier?
Pour le balcon des étoiles, il y a toujours des activités d'observation sur le site de la Trappe, hein,
oui.
au balcon des étoiles. Il y a un astro-repas aussi qui est prévu pour le 25 janvier,
mm-hmm.
hein, avec une bonne garbure qui est prévue. Et à la suite de la garbure, pour bien la digérer, il y a des séances d'observation qui seront organisées. Et on espère, bien entendu, que le ciel soit clément avec nous.
En effet, en effet. Sinon, ça sera peut-être un petit peu râpé. Vous travaillez aussi avec le centre Les Brioudes à Muret. Vous aviez dit qu'il y aurait des stages. Est-ce que ça se passe bien?
Il y a toujours des cours qui sont organisés,
oui.
une fois chaque 15 jours. C'est mm-hmm. le lundi soir à 20h30. On essaye de varier, bien sûr, les thématiques. Hein. Il y a de l'astronomie générale. Il y a de l'astrométrie, il y a de l'astrophysique. On essaye de trouver des moyens pédagogiques les mieux
oui.
adaptés.
Oui.
Pour répondre bien justement au public, pour rendre cette science bien sûr passionnante, intéressante et pas rentrer dans un formalisme mathématique qui pourrait faire fuir justement le public. Je ne vous cache pas quand même qu'il y a un petit peu de mathématiques, mais c'est des calculs qui sont quand même relativement simples. Il n'y a pas de démonstration de formules, mais il suffit de les mettre en application. Mm-hmm. Et ça permet de mieux comprendre certains aspects, justement, de l'astronomie et puis de l'astrophysique.
Ça, c'est Aubryou de Amuré. Pour ce qui concerne le balcon des étoiles, vous avez le site toujours qui est disponible.
Il suffit d'aller taper sur le moteur de recherche de Google, par exemple, balcon des étoiles, et là bon, on est référencé en pole position, donc vous n'aurez aucun mal à nous trouver, et là vous aurez beaucoup plus d'explications concernant les activités du site et les éphémérides et puis ce qui est de programmé également au niveau des soirées comme l'Astro-Repa, par exemple.
D'accord. Et je suppose que pour l'Astro-Repa, on s'inscrit.
Tout à fait. Même pour les observations, si vous souhaitez venir observer à la trappe, eh bien, je vous invite à vous inscrire, bien sûr, sur Internet. C'est pour des raisons simplement d'organisation.
Tout à fait.
On ne peut pas gérer un groupe de 5 personnes comme 50. Et il s'agit de pouvoir naturellement s'organiser.
Quoi. Oui, et puis pour vous, c'est plus facile à gérer deux groupes de 25 personnes qu'un groupe de 50 personnes.
Tout à fait. Et bien sûr, ça impacte les ressources humaines.
Tout à fait. Je comprends. Mais merci beaucoup, Denis. On regarde Vénus, c'est dans le ciel, vous l'avez dit, c'est plus sud-ouest, dès le coucher du soleil, on ne peut pas la rater.
Entre 18h et 20h, réservez bien ce créneau horaire, parce que bon, c'est une planète qu'on ne peut pas voir au milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'elle sera couchée sous les coups des 10h du soir.
En effet.
Entre 18h et 20h, juste après le coucher de soleil, direction sud-ouest. Et là, si vous voyez une étoile brillante au-dessus de l'horizon, eh bien, c'est l'étoile du berger.
Et plus pour les petits-enfants, c'est l'étoile du Père Noël.
Voilà.
Mais maintenant, c'est l'étoile du berger. Merci beaucoup, Denis.
Merci, Gisèle. Merci à vous tous.
Et on se dit au mois prochain.
À bientôt, Gisèle. Au revoir.